vagabondage. Bonjour, aujourd'hui, vagabondage dans un Vercors des mille chemins. Ce Vercors des mille chemins, c'est le titre d'un ouvrage qui est paru début 2013 au comptoir d'édition. Comptoir d'édition, maison d'édition installée à Rochechinard, avec qui nous collaborons souvent et qui est dirigée par Catherine Flamand. Et Vercors des mille chemins, cet ouvrage, on le doit à un autre monsieur extraordinaire avec qui nous collaborons aussi souvent, qui est Philippe Anus, qui est l'historien du CPIE, mais aussi, on va dire, un chercheur et un contributeur à tout ce qui peut toucher à la mémoire des migrations en Rhône-Alpes, en particulier à travers ce qu'on appelle le laboratoire LARA. Et il est assisté dans cet ouvrage de Laure Tellière, qui est une historienne militante de l'Université de Toulouse et qui est la grande spécialiste des migrations italiennes dans le sud-ouest et le sud de la France. Cet ouvrage a un sous-titre « Figure de l'étranger en temps de guerre ». Et on va dire que, à travers ce qu'on appelle des contributions, c'est-à-dire des petits articles, hein, il y en a une trentaine, qu'ont rédigé différentes personnes qui sont pas forcément, il y a des historiens, bien sûr, il y a des chercheurs, il y a donc un côté scientifique, mais il y a aussi, je vous donnerai un peu les, ceux qui ont écrit, des gens que vous connaissez peut-être, des proches, puisque ça parle du Vercors, comme terre d'accueil, de refuge et de passage-refuge pendant les années noires, celles qui ont précédé la Deuxième Guerre, pendant la guerre et au sortir de la guerre. Et c'est assez fascinant comme livre, très facile à lire et assez passionnant, et on découvre plein de choses, car en particulier, on y voit se mêler bien sûr des Italiens, bien sûr des Espagnols, mais aussi des Indochinois et des Américains et des Allemands et des Autrichiens réfractaires et qui luttaient contre le nazisme et puis de tous les pays d'Europe et du monde, des communautés comme ça qui ont traversé le Vercors. On va commencer puisque c'est un ouvrage qui est produit par le Parc du Vercors et le CPIE, par ce que dit Daniel Pic en ouverture, la présidente du Parc naturel régional du Vercors. Ça s'appelle « Notre devoir d'hospitalité ». Vercors des mille chemins est l'aboutissement d'un travail de recherche mis en œuvre depuis plusieurs années par le Parc naturel régional du Vercors et le CPIE afin de mieux connaître l'histoire du peuplement de ce territoire des Préalpes. Cette vaste enquête centrée sur les mouvements migratoires s'est appuyée sur deux journées d'études. La première, intitulée « Toute direction », s'est déroulée à Die en mai 2006. La seconde, centrée sur la figure de l'étranger en temps de guerre, a pris la forme d'une rencontre nomade à l'automne 2008 à Saint-Martin-en-Vercors. Cette journée prenait également part au Forum Trace, consacré aux mémoires de l'immigration en Rhône-Alpes. Italiens, espagnols, portugais, polonais, belges, hollandais, nord-africains, africains, sud-asiatiques. Chaque période a vu affluer ces étrangers et le Vercors a su les accueillir. La migration est certes devenue un objet d'histoire. C'est aussi un sujet d'une actualité brûlante. Il y a quelques mois, de nombreux élus s'élevaient publiquement contre l'article L622.1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui pénalise les personnes venant en aide aux sans-papiers. Accueillir, apporter des soins, donner à manger, trouver un hébergement, n'est-ce pas pourtant la seule attitude à avoir face à toutes les formes de misère ? Doit-on demander ses papiers à une personne avant de lui sourire, de lui parler, de lui tendre la main ? Le risque réel de répression, de dénonciation, n'a toutefois pas empêché la générosité et la compassion de prendre le pas sur la barbarie. Et ce n'est certainement pas un article L622.1 qui aurait changé la détermination de ces héros de l'ombre. Derrière les discours écrans faisant l'éloge de la liberté de circuler, socialement valorisée par les uns, existent cependant des formes de contrôle visant des catégories de population précarisées, contraintes au mouvement perpétuel ou astreintes à résidence dans de nouvelles zones de confinement. Allons-nous continuer à nous en remettre passivement à l'international des polices pour régler la question des sans-papiers ? De tout temps, nul n'est censé ignorer la loi, mais de tout temps, n'y a-t-il pas une clause de conscience, une obligation de manifester sa désapprobation, un devoir moral de désobéissance dans certaines situations pour l'ensemble des élus comme pour tout citoyen ? En ces temps troublés, où d'habiles manipulateurs d'opinion exploitent les peurs ordinaires de nos concitoyens, en stigmatisant certains immigrés et leurs enfants, par essence non assimilables, il convient de demeurer en état de veille critique. N'y a-t-il pas un moment où le spectacle n'en est plus un, où nous nous sentons atteints au plus profond de notre être par ces violences du dehors ? Voilà donc l'ouverture de cet ouvrage. On va faire quelques détours musicaux et on va naviguer entre Espagne et Italie avec d'abord Carta à l'exil de Maria Bonet del Mar. Avant de retrouver une première fois Philippe Anus à Saint-Laurent-en-Royans, juste donner quelques titres comme ça, même tous les titres au fur et à mesure, pour comprendre de quoi parle ce livre. Donc, passer l'ouverture, il y a l'introduction cette fois-ci de Philippe Anus et de l'Hortelière, les responsables de cet ouvrage qui s'appelle « Le Vercors, une citadelle ouverte et bigarrée ». Puis on a « Les étrangers et l'activité hôtelière à Villard-de-Lans durant l'entre-deux-guerres ». notes sur l'antifascisme italien en Isère durant l'entre-deux-guerres, des réfugiés espagnols dans le Royan, des réfugiés espagnols dans le Vercors, Michel Serra, réfugié espagnol dans le Diois, Anita Faisan del Moral, voilà quelqu'un qu'on connaît dans le Royan, qui travaillait à la mairie de Saint-Laurent, et qui a donc contribué à cet ouvrage, et ça n'est pas du tout une historienne, c'est un témoignage, c'est les parcours de vie de Tomás del Moral et Ana Herrero, c'est sa famille, réfugiée espagnole. Puis on a « Être italien en France durant la guerre, quelques réflexions à partir de l'espace alpin ». Les étrangers de race juive et les montagnes refuges, l'exemple d'Izieux, Prélanfray, village de Juste, c'est dans le Trièvre, le centre d'accueil des juifs étrangers et opposants au nazisme du Pont de Man, voilà partie des découvertes qu'on peut faire dans cet ouvrage, c'est que le célèbre, et c'était déjà Beach, hôtel, boîte de nuit que nous avons fréquenté a été un centre d'accueil. Le lycée polonais, bien sûr, Cyprien Orvide, au miroir de la présence polonaise en France à Villard-de-Lans, les bûcherons indochinois dans le Vercors pendant la Seconde Guerre mondiale, et là on y retrouve par exemple des témoignages de Camille Archinard, et donc des bûcherons indochinois du côté de Auriol et de Roche-Chinard. Des Britanniques et des Américains dans la tourmente, un article de Michel Vulschläger, autre personnage qu'on croise souvent et qui s'est fait les beaux jours de l'Association des Amis de Léoncel, le titre de son contribution c'est « Des antifascistes allemands et autrichiens dans la vallée de la Gervanne ». On retrouvera d'autres titres d'articles dans quelques instants, mais d'abord voilà ce que Philippe a dit à Saint-Laurent-en-Royan à l'assistance en présentation de son livre. C'est un peu à l'arrache comme ça, puisque là on prend du son, on retrouvera tout à l'heure un interview direct de Philippe, mais voilà son introduction.
Et plus largement de montagne. Ce qui me permet aussi finalement de rentrer assez vite dans le cœur du sujet. Ce livre dont on va discuter ce soir, qui est un ouvrage collectif, le mot est important, hein, donc c'est un travail à plusieurs mains, à plusieurs voix, qui a été un long travail de maturation. Ça fait à peu près 4 ans qu'on est un certain nombre à essayer de penser cet objet. Grâce au travail de Catherine, est désormais parmi nous. Alors, je crois que c'est important que je vous donne quelques clés de lecture, de mise en contexte, on pourrait dire, avant de rentrer dans le cœur du sujet. Comment ce bouquin est né ? Il est l'aboutissement de plusieurs énergies, pourrait-on dire. D'une part, donc un travail en profondeur initié par le parc du Vercors depuis une dizaine d'années, visant à questionner ce qu'on pourrait appeler le roman des habitants du Vercors, finalement, en quelque sorte une histoire du peuplement qu'on avait commencé à faire avec les équipes du musée dauphinois à Grenoble, sur le pastoralisme par exemple, puisqu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le berger transhumant, c'est déjà une figure de l'étranger, hein, dans les pays de montagne, dans les alpages humides. À travers d'autres activités liées autour du monde agricole, telles que la fromagerie, par exemple. Dans notre région, il y avait beaucoup d'immigrés suisses, dès le XVIIIe siècle, hein, dans le secteur d'Ambel, mais aussi aux Écouges. Donc on croisait ici ou là un curé piémontais à la chapelle en Vercors au XVIIIe siècle. L'italien n'existait pas encore à cette époque-là, on était défini. Le terme générique, c'était le piémontais. Et donc on avait commencé à croiser ici ou là la figure de l'étranger. Et en 2006 à 10, on a organisé ce qu'on appelle ces fameuses rencontres nomades sur cette thématique de l'étranger à la campagne. Parce que hein, vous n'êtes pas sans ignorer que lorsqu'on aborde la question de l'immigration, qui est un sujet extrêmement délicat, donc moi je mets beaucoup de guillemets lorsque j'utilise des mots, le vocabulaire est toujours piégé. Lorsqu'on aborde la question de l'immigration, ça suscite des passions collectives, en bien ou en mal. Parfois on esthétise, on idéalise la figure d'étranger, parfois on le stigmatise, hein, c'est-à-dire qu'on lui attribue tous les maux de la société, particulièrement en situation de crise. Donc c'est toujours très délicat de convoquer cette figure-là. Et donc, paradoxalement, lorsqu'on aborde la figure d'étranger, on pense d'abord à la ville, et même à la banlieue de la ville, hein, le banc du lieu, les faubourgs urbains ouvriers, la misère humaine, etc. Et on associe souvent les étrangers à la à l'usine. Et le monde rural est souvent un petit peu oublié, particulièrement en France, où l'historiographie française, donc la science historique, pourrait-on dire, a longtemps enfermé les campagnes, le monde rural, dans l'éternel présent de la tradition, des sociétés stagnantes. Il y a même eu un livre récemment qui s'appelait « Le village immobile » pour décrire la région de la Sologne. Et donc, ce monde rural était souvent perçu comme un monde un petit peu à l'écart. Et on a même construit ce qu'on a appelé le paradigme français de la sédentarité. Et il y a eu depuis quelques années des travaux. Alors, dans les Alpes, c'est un peu moins vrai, puisque dans les Alpes, par définition, les Alpins sont des gens mobiles. Hein, les gens de la région de Briançon allaient régulièrement travailler 6 mois par an dans les industries textiles de Bourgoin-Jallieu, par exemple, hein, donc, avec des formes de ce qu'on appelait les remues d'hommes, hein, fort anciennes. Mais c'est vrai que dans l'Hexagone, on avait quand même cette idée que les campagnes étaient plutôt des espaces conservatoires, un peu consanguins. Un peu. Et il y a eu peu de travaux qui ont abordé la question de l'étranger à la campagne. Alors il y a un travail fondateur qui nous a servi aussi un peu de matrice à cet ouvrage, qui est celui d'un grand historien ruraliste qui s'appelle Ronald Hubscher et qui a à voir avec le Vercors puisqu'il a une résidence secondaire à Saint-Julien. Je crois qu'il a épousé une fille du pays et qu'il anime chaque été le festival Caméra en campagne à Saint-Julien-Vercors. Et donc Hubscher a commis un ouvrage il y a une dizaine d'années maintenant qui s'appelle Les étrangers à la campagne. Donc c'était le premier travail de synthèse sur l'immigration en milieu rural, donc qui nous a aussi servi de point de départ à cette aventure. Donc Hubscher était d'ailleurs présent aux rencontres nomades de Die en 2006, voilà, qui était donc notre premier jalon, notre première pierre à l'édifice. L'autre journée fondatrice, c'était un travail qui a été initié dans le cadre du Forum Trace. Trace, c'est une biennale qui a lieu à l'échelle de la région Rhône-Alpes depuis les années 2000, qui a commencé à Lyon, à Saint-Étienne, à Grenoble, dans les villes, et puis qui, par agrégation progressive, a interrogé les territoires. Et donc nous avons été un des référents ruraux du Forum Trace. Et en 2008, peut-être que certains d'entre vous étaient présents, on a organisé une journée très émouvante à Saint-Martin, qui s'appelait justement « Des étrangers dans le Vercors, de la guerre d'Espagne à la reconstruction », qui a finalement servi de vraiment, alors cette fois, de substrat à ce travail. Et à l'occasion de cette journée, on avait voulu inviter donc, des chercheurs consacrés, donc des spécialistes de la question, dont Laure Tellière, qui est la co-coordinatrice de l'ouvrage. Donc Laure Tellière, c'est une universitaire de Toulouse, Université Toulouse de Mirail, qui est spécialiste de l'histoire d'immigration italienne dans le Midi-Pyrénées, hein, qui a sur l'actif beaucoup de publications. Vous pouvez trouver des travaux d'elle en ligne. Et puis moi, ce que j'apprécie particulièrement chez Laure, et je crois que Catherine ne me démentira pas, c'est que c'est une historienne impliquée, qui n'est pas enfermée dans la Tour d'Ivoire, qui va sur le terrain, qui aime à faire partager le savoir, qui, dans la région Midi-Pyrénées, voilà, anime des rencontres, accompagne le travail de mémoire avec les populations migrantes. Donc elle a accepté bien volontiers d'être un peu la marraine de ce travail-là. Et puis donc on a rassemblé différents points de vue. Donc vous avez dans l'assemblée quelques-uns des auteurs, donc on leur donnera la parole tout à l'heure. Différents points de vue, donc des scientifiques, voilà, alors on peut parler de spécialistes, hein, non pas d'experts, je pense qu'on récusera le terme de discours d'autorité, mais des gens qui ont creusé le sillon de l'histoire d'immigration. Alors en particulier le préfacier Gérard Noriel, je pense que vous avez entendu parler de Gérard Noriel, c'est un des grands historiens français qui a écrit un livre capital au début des années 80 qui s'appelle Le Creuset français. C'est un livre où on le trouve en livre de poche, je pense qu'il est...
Voilà, ça s'arrête un peu brutalement, je l'avais dit, parce que, enfin, pour des raisons de temps. Et puis qu'on va retrouver donc directement Philippe Anuche tout à l'heure. J'ai cité tout à l'heure les titres des communications qui, et en fait, le livre est organisé avec des petits articles, donc qui, après l'introduction, s'appelle Avant la guerre, sous l'occupation. Et maintenant, on en est dans ce que j'ai cité à En résistance, où on retrouve à propos de Marco Lipsic, juif polonais, responsable militaire des francs-tireurs et partisans français de l'Isère. On retrouve Genèse d'une traversée entre le théâtre et l'histoire de Prague à Grenoble, témoignage des anciens Dizieux et création théâtrale, l'affaire des Polonais d'après le témoignage d'André Vincent Baum, des dirigeants communistes allemands dans la résistance et la montagne diolfitoise, les tirailleurs sénégalais dans la bataille du Vercors, à la recherche des tirailleurs africains dans le Vercors. En rappelant d'ailleurs qu'on dit toujours tirailleurs sénégalais, mais c'est un titre générique, c'était des Africains et pas forcément des Sénégalais. Et puis il y a une dernière partie avant la conclusion dans cet ouvrage qui s'appelle « Après-guerre », parce que les étrangers ils se sont soit installés, soit repartis, et qu'il y avait des nouveaux étrangers pendant plusieurs années, on a tendance à l'oublier, dans le Vercors, qui étaient les prisonniers allemands. Qui sont restés et qui ont travaillé des fois à la reconstruction finalement en tant que prisonniers de guerre. Et donc là on trouve le personnage de Terreau dans Le Peuple impopulaire d'Alain Prévost, une figure allégorique de l'Espagnol rouge. Franz L, prisonnier de guerre allemand de Toulon à Vassieux, la main-d'œuvre étrangère dans la reconstruction de Vassieux, une chasse à l'homme, le recours aux Italiens pour relancer l'économie et repeupler le territoire, et enfin le paysage mémoriel de l'exil, les enjeux autour de la guerre d'Espagne et du franquisme. Et puis deux articles de conclusion, l'un qu'on retrouvera tout à l'heure d'ailleurs, Montagne de solidarité et de résistance, et Penser, P-A-N-S-E-R, le passé. On va repartir en musique, cette fois-ci du côté italien, avec Paolo Conte, Via con me.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, and we move you. Chips, chips, da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom, da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom, da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo.
Paolo Conte, l'Italie. On retournera en Espagne tout à l'heure et puis en Italie. On aurait pu, je rappelle, choisir des chansons d'origine totalement différente. On va tout de suite retrouver donc à nouveau Philippe Anus. Et cette fois-ci, c'est tranquille, c'était avant cette rencontre à la bibliothèque de Saint-Laurent-en-Royans, assis au soleil. Alors il peut, voilà, il y a peut-être des camions qui passent, je ne sais pas. Mais ça n'empêche qu'on a discuté un peu plus tranquillement et que je lui ai posé des questions, voilà, qui sont diverses, en sachant que ça n'est pas neutre, hein, les questions qu'on pose, que d'abord on connaît encore une fois très bien Philippe, et puis que j'étais assez enthousiasmé par ce bouquin.
Philippe,
vous venez de commettre avec l'hortelière comme responsable, on va dire, de cette édition, un nouvel ouvrage. J'ai envie de dire un nouvel ouvrage parce que c'est toute une histoire, les publications CPIE, Parc du Vercors, comptoir d'édition aussi maintenant. Et c'est un ouvrage formidable, je le dis, mais est-ce que c'est aussi, puisqu'on est toujours sur le thème de l'exil, des migrants, des immigrés, du traitement, de l'accueil de l'étranger, de la maltraitance de l'étranger, choses qui ont déjà été souvent déclinées, soit à travers d'autres ouvrages, soit à travers des manifestations avec le CPIE, c'est un peu quand même un... J'ai l'impression que c'est quand même un peu un bilan presque, non ?
Oui, non, vous avez raison. On est parti d'un certain nombre de réalisations à la fois sur le terrain, de rencontres, de cheminements intellectuels qui ont fait qu'on a essayé de rassembler la matière dans un genre d'espace public, quoi, je sais pas comment appeler ça, et on avait vraiment envie qu'il soit collectif. Donc Laure et moi-même, on a coordonné le travail, mais on voulait qu'il y a aussi agrégé à cette aventure différents auteurs qui avaient à un moment ou à un autre croisé notre route et avec qui on avait envie de partager ce moment-là.
Alors, une des leçons aussi, je trouve, de l'ouvrage, puisque on est très méthodique sur l'étranger, hein, dans une période précise et par rapport à une région précise, mais on n'est pas que sur les Italiens, on n'est pas que sur les Espagnols, et d'ailleurs il y a plein de surprises. Quand même, il me semble qu'il y a deux choses qui se dégagent. Alors l'une qui est bien redite à la fin de l'ouvrage, dans les derniers articles, qui est que ce Vercors a quand même été assez accueillant, non ?
Oui, dans une certaine mesure, on peut dire qu'il était accueillant. La question, c'était une manière aussi, qui était notre propos de départ, de convoquer la figure de l'étranger dans toutes à travers toutes les formes qu'elle peut prendre, et essayer de mettre ensemble dans un même bateau celles et ceux qu'on a parfois tendance à enfermer dans l'univers de la communauté. Là, on s'est dit, finalement, l'étranger, d'ailleurs, qui peut être aussi un étranger de l'intérieur, hein, qui n'est pas forcément un étranger à l'État-nation, qui peut être le voisin, l'Ardéchois, le Lorrain, qui se retrouve à un moment ne pas être d'ici, en situation de guerre, qui est toujours une situation un peu particulière, une situation où les règles de l'état de droit sont un petit peu modifiées, et se dire, quels sont les avatars de ce personnage qu'on appelle l'étranger, et comment on le fabrique, comment on le construit. Et puis c'était aussi peut-être tordre le cou à la manière parfois dont dans nos institutions on appréhende ces questions-là, c'est-à-dire que pour rendre la parole à tel ou tel groupe de pression, on va faire le rendez-vous des Italiens, le rendez-vous des Espagnols, le rendez-vous des Portugais, etc., etc. Là, on s'est dit on met tout le monde dans le même espace de réflexion. Et qu'est-ce que ça signifie se sentir être désigné comme étranger pendant ces années de la guerre d'Espagne jusqu'à la reconstruction.
Alors est-ce que, parce que ça n'est pas dit à la fin, mais moi je l'ai, comment dire, senti tout le temps, est-ce que le fait que c'est été peut-être relativement accueillant, mais aussi une situation très particulière, en tout cas jusqu'en 40, fin 42, de l'occupation italienne, qui avait quand même, apparemment, d'après ce qui est dit, un regard elle-même, cette Italie fasciste, sur l'étranger, qui était certainement loin de ce qu'imposait le nazisme, non ?
Oui, alors il y a plusieurs raisons à cette situation. C'est pas simplement de l'humanisme ou de la bienveillance. Oui. C'est d'une part parce que finalement l'Italie, certes, est du côté des vainqueurs, mais en même temps elle a perdu la bataille des Alpes contre l'armée française. Et donc en définitive, ce sont un peu des vainqueurs de second rang. Et dans la mesure où on est dans une région frontalière où l'Italien c'est d'abord l'immigré, le soldat italien qui de toute façon a même pas les moyens de fanfaronner, on l'accueille avec un peu de condescendance. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette métaphore de l'Italien plume au chapeau. Donc le soldat italien, d'ailleurs, qui souvent est un conscrit, hein, finalement, on a plus de contingent, qui se retrouve là, loin de sa famille, eh bien, il est moins agressif, moins. Ça signifie pas cependant que le fascisme italien soit pas particulièrement xénophobe. Mmh. Mais en la circonstance, dans la région, effectivement, l'armée italienne est plutôt globalement bienveillante.
Alors, on parle aussi beaucoup finalement de ruralité dans cet ouvrage, puisque même s'il y a des allusions à ce qui se passe à Grenoble, à Lyon, on est quand même. Et beaucoup de la Drôme, beaucoup du Dioua, du Vercors central, je continue à dire comme ça. Et là, c'est important quand même, non, cette ruralité. Alors, je le dis pour le Vercors, mais par exemple, on parle aussi souvent du Chambon-sur-Lignon, d'autres ruralités. Mais il y a quelque chose là, non?
Oui, tout à fait. Alors ça va me permettre de répondre à la question à laquelle j'ai pas répondu sur l'accueil. C'est vrai qu'on a encore ce lieu commun, bon, qui est un lieu commun qui est construit médiatiquement, politiquement aussi, qui consiste à présenter les étrangers comme étant toujours rassemblés dans les lieux du travail. Donc les lieux du travail, en général, c'est l'usine, où est-ce qu'elle se situe? Dans les faubourgs urbains, des grosses agglomérations. Et c'est vrai que l'immigré, c'est la ville. Et on a voulu tordre le cou à cette idée reçue en présentant des mondes ruraux en tension avec la ville, en relation, montrer effectivement un Vercors ouvert. Alors je ne sais pas s'il est accueillant, c'est-à-dire au sens où on aimerait qu'il soit accueillant. Il y a des gens qui s'y retrouvent rassemblés. Pour des raisons diverses et variées, effectivement. Alors peut-être aussi parce que dans cette région, il y a une tradition. Alors on peut aller chercher peut-être des mythes fondateurs, des grands récits comme le protestantisme, comme une certaine tradition social-démocrate avant l'heure, qui font qu'effectivement on est peut-être un peu plus favorable à la présence de l'autre. Mais il y a aussi tout simplement le fait que ce territoire est un lieu de passage de longue date et que il y a aussi des dispositifs qui permettent d'accueillir l'autre, de l'hôtellerie. On peut cacher des enfants, stigmatiser des enfants juifs, c'est facile. Il y a effectivement une voie de circulation européenne pérenne, la vallée du Rhône à proximité du Vercors. Donc notre ambition, c'était aussi de montrer finalement que cette citadelle, qui est aussi une construction un peu romantique, en définitive, elle est ouverte et qu'on y passe, on s'y arrête quelques années durant, on en repart. Et puis l'idée qu'on avait, c'était aussi, à travers cette réflexion sur l'étranger, c'était de déconstruire l'idée du territoire, borné avec ses frontières. En définitive, le territoire, c'est toujours un peu une fiction, et que la figure de l'étranger, de manière un peu péremptoire, elle vient le remettre en question, le questionner, dire que c'est plus compliqué que ça. Et en définitive, on ne peut pas comprendre effectivement le Vercors si on ne s'interroge pas sur le rapport avec l'agglomération grenobloise, avec la vallée du Rhône, avec Lyon, avec la frontière italienne. Et puis, comme on a aussi beaucoup mis l'accent sur la présence espagnole dans ce travail-là, sur ce qui se passe de l'autre côté des Pyrénées. Et je trouvais ça assez fascinant, effectivement, de réfléchir sur des parcours, des trajectoires de ces personnes. Finalement, ce Vercors, dans ces années de guerre, c'est un petit morceau d'Europe, et d'une Europe en mouvement.
Pour finir, Philippe, question technique. Comment on fait? Presque tous les articles et communications sont d'un auteur. Hein. Et puis vous en avez une à trois, je crois, avec l'hortelière et puis...
Yvan Gasto.
Et là, comment on fait pour avoir une communication à trois?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Le premier, il est pour sortir justement... Bon, on n'a pas pu le faire tout le temps. Aussi, parfois, un peu de l'ego de l'auteur, quelque chose d'un peu narcissique. Laure, qui est une historienne impliquée, engagée à l'Université de Toulouse, qui est aussi très présente dans la région Midi-Pyrénées, qui revendique aussi l'éducation populaire, c'est quelqu'un qui apprécie ce genre d'exercice. Donc l'idée de vraiment de bâtir un espace public, collégial, à plusieurs mains, d'ailleurs aussi la complicité qu'on a eue avec Catherine Flamand, l'éditrice, de fabriquer quelque chose comme ça, en débattant, en discutant, en n'étant pas toujours d'accord sur tout. Donc il y a déjà l'idée de départ. Après, chaque article, même s'il est signé par un auteur, il est revu, relu, disséqué par un comité de lecture. Et puis effectivement, l'idée d'écrire à plusieurs mains, moi je trouve ça assez formidable. Alors ça va pas de soi, c'est évident, parce que bon, il y a les questions stylistiques. Bon, il y a toujours une personne qui écrit un peu plus que les autres, mais il y a quand même l'idée de convoquer le matériau. Alors, soit parce que un des protagonistes, c'est quelqu'un qui a... On a par exemple écrit un article avec des personnes de plusieurs générations. Il y a un témoin qui lui a vécu l'expérience migratoire et qui a une belle plume, donc qui aussi met la main à la pâte. Un historien consacré qui a une distance, alors qui arrive à plaquer sur notre récit des modèles nationaux, européens, à nous aider à prendre un peu de recul, et puis moi-même qui connais un petit peu plus la réalité locale et qui tricote entre les deux, entre le témoin et les... donc entre le micro, l'expérience du terrain et le macro. Et c'est vrai que ce livre, on a essayé aussi de le bâtir dans un esprit alors mutualiste avec des témoins, il y a plusieurs récits de vie, ça c'est très important, des histoires qu'on espère chaleureuses, parce qu'on ne voudrait pas non plus qu'ils soient déprimants. Pendant les périodes de guerre, ils se réinventent du social, de la solidarité en permanence. Et ça, pour nous, c'était important. Donc, des témoignages, des jeunes chercheurs. C'était très important que des historiens en formation, à qui on ne donne pas forcément la parole dans les revues consacrées, puissent s'exprimer. C'était un peu un banc d'essai pour eux. Des chercheurs plus confirmés. Et puis aussi des artistes. On a aussi donné la parole à une comédienne qui est aussi auteure de théâtre, parce que c'était toujours aussi notre ambition de dire que les scientifiques n'ont pas le monopole de la réflexion sur les questions de mémoire. Voilà.
En tout cas, merci pour l'interview et pour le bouquin.
Merci. Bon.
C'était les négresses vertes, hasta liegar, accent et prononciation non garantie. On termine autour de ce livre avec ce qui clôt le livre, le dernier article que l'on doit à Marina Choliac, qui est anthropologue et qui est la chargée de mission patrimoine à la DRAC Rhône-Alpes, ministère de la Culture, car ce livre a été financé outre le parc naturel régional du Vercors et par le département de la Drôme. Il a été financé par, dans le cadre d'un appel, ce qu'on appelle un appel à projet, par Mémoire du XXe siècle, DRAC région Rhône-Alpes. Bien que les auteurs s'en... Ça s'appelle Penser, P-E-N-S-E-R, et Penser, P-A-N-S-E-R, le passé. Bien que les auteurs s'en défendent, ce livre aborde bien la question de la revendication mémorielle, non celle d'un groupe social particulier, mais celle diffuse d'une époque marquée par un nouvel intérêt porté aux anonymes, aux femmes, aux enfants ou encore aux migrants. En ce sens, l'ouvrage rend justice aux oubliés de l'histoire des conflits qu'ont longtemps été les étrangers, du moins assignés comme tels dans cette période, déplacés, réfugiés, immigrés, descendants d'immigrés, juifs. Cette démarche n'est donc pas isolée. Avec la figure de l'immigré venu travailler dans les mines et les usines françaises, est aussi apparue dans l'espace public la figure des coloniaux de l'armée française, portée notamment par le film de Rachid Bouchareb, Indigène. Comme le rappelle Gilles Emprin, sur fond de crise économique et sociale qui touche largement les populations immigrées et leurs descendants bien français, le retour sur l'histoire de ces soldats et leur rapport à la libération de la France a mis en lumière la mauvaise manière qui leur a été faite. La représentation de l'étranger abordée dans le livre est toutefois bien plus large. Elle englobe des personnes prises dans le conflit et qui n'ont pas forcément combattu, ne se revendiquent pas obligatoirement d'abord politique. C'est un grand mérite de ce livre de permettre, grâce à des recherches fouillées dans les archives, grâce aux nombreux éléments biographiques exposés, de mettre en lumière la survie du quotidien, les inepties de l'administration française, ou encore les hésitations et le désarroi de nombre d'entre eux soumis aux aléas des accords entre dirigeants fascistes. L'enjeu est ici de bouleverser un récit bien rodé sur les années noires dans le Vercors entre gloire et larmes, entre le combat des résistants et le martyr des civils innocents. Adossé à l'image d'un territoire rural fait de montagnes refuges ou encore d'une forteresse naturelle, à laquelle fait écho une forteresse de la mémoire, la mise en récit public du passé laissait peu de place à ceux venus d'ailleurs, porteurs d'autres cultures et d'autres mémoires. Quelle forme a pu prendre cet oubli? Pourquoi et comment émergent aujourd'hui des figures de l'altérité dans l'écriture d'une histoire de la période 1936-1945? En l'absence d'un groupe de médiateurs de cette mémoire, d'individus qui endossent le rôle de témoin ou porte-parole, les souvenirs de telle ou telle expérience, même partagés par un grand nombre de personnes, peuvent rester invisibles dans l'espace public. Les changements sociaux, la perte ou la rupture ayant atteint le lien social, l'absence d'un espace d'écoute, le traumatisme ou les dispositifs de construction d'une image de soi peuvent constituer autant d'obstacles de mise en récit d'expériences collectives. Pourtant ici, il faut bien ajouter une spécificité. De même que la figure de l'immigré économique a longtemps été occultée par celle de l'ouvrier, la figure de l'immigré politique antifasciste semble avoir été longtemps éclipsée par celle héroïque du résistant. On notera le croisement, voire le chevauchement, des mémoires. Si le héros résistant trouve moins de place dans les récits collectifs, l'étranger, allemand, espagnol, italien, polonais, antifasciste, héroïsé notamment par les témoignages des survivants, est ici bien présent. Un autre facteur expliquant le silence tenu jusqu'à présent sur le vécu des étrangers à cette époque réside dans la continuité entre engagement dans la résistance et engagement post-coloniaux, comme le rappelle le colonel Maurice Rive dans un article « Hommage aux tirailleurs sénégalais ». Enfin se pose la question d'une possible altérité au sein d'un grand récit collectif qui produit un territoire. L'étranger n'est-il pas intrinsèquement destiné à être oublié? Parce qu'il s'intègre dans la population locale, parce qu'il était déjà intégré, et que seule une politique xénophobe et antisémite lui a donné ce statut, parce qu'il s'en va, ou encore parce qu'identifié à l'ennemi en temps de guerre, il redevient voisin en temps de paix. À chaque époque, ses questionnements et ses reconstructions mémorielles. Le fait que ce livre porte aujourd'hui la parole des migrants et réfugiés dans un espace rural n'est peut-être pas non plus le fruit du hasard. L'espace rural n'est désormais plus sûr de son histoire et de son progrès. Le changement économique et démographique en font un lieu d'accueil de nouveaux espaces politiques où se renégocie la gestion patrimoniale et mémorielle. C'est en effet dans de nouvelles appropriations de l'espace qui obéissent à la double injonction patrimoniale et d'une préservation de l'environnement naturel et culturel que se redéfinissent les territoires ruraux. Traversés par des enjeux touristiques, agricoles, d'extension urbaine liés au dynamisme de Grenoble, le territoire du Vercors n'échappe pas à cette logique. De nouveaux acteurs, mais aussi bien entendu d'anciens, et en premier lieu le parc naturel régional, sont amenés à construire les fondements de l'appartenance territoriale et donc réécrire une histoire locale. Inscrire l'altérité au cœur même de la patrimonialisation d'un territoire est ici le défi à relever. À l'échelle nationale, le retour sur le grand récit national de la résistance, amorcé dans les années 1970, et l'évolution de l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale ont conduit à la prise en compte d'une pluralité de points de vue, parfois dissonants sur l'époque. C'est aussi dans un contexte de lutte pour la reconnaissance comme moteur d'action collective en vue de rétablir l'estime de soi pour les descendants des migrants que l'on peut placer la parution de cet ouvrage. Pour cela, la distanciation critique des chercheurs, indispensable pour fonctionner, pour questionner une interprétation du passé unique dans l'esprit public et dans l'espace public, soulever un coin du tapis où ont été enfouis certains éléments du passé douloureux ou culpabilisant, doit être réconcilié avec la reconnaissance dans les différentes conceptions du terme, ne pas être inconnu ou méconnu, obtenir de la gratitude. Libera la strada.
Angeli di vetro quassù.
C'était Vagabondage dans un Vercors des mille chemins, à titre d'un livre que vous pouvez trouver dans les librairies et dans les localement dans tous les bureaux de tabac presse. Comptoir des éditions. Superbe livre, et je le dis qui, encore une fois, même si ça peut paraître des fois un peu compliqué, se lit très facilement et vous y ferez plein de découvertes, y compris sur des gens que vous connaissez. À la technique, Lionel, Vagabondage, c'est le jeudi vers 9h et rediffusion, en particulier le week-end. Au revoir.